Bonjour, bienvenue sur Radio Méga dans notre émission Underscore. Cette semaine, nous plongeons ensemble vers le beau, le merveilleux monde qui semblerait un jeu vrai mais pour de faux, n'est-il pas ? Nous allons le dévoiler à travers une histoire bien réelle.
N'est-il pas ? Bonjour oh Cécile.
Oui. Bonjour Emmanuel, bonjour Doudou, bonjour Maître Belle.
Bonjour, et bonjour les auditeurs.
Bonjour les auditeurs. Oh là, qu'est-ce que c'est cette histoire ? T'as compris quelque chose hein, dans le vrai, du faux, mais en fait... C'est plus du réel. Mais non, je crois que Maître Belle nous parlait de réalité virtuelle, c'est ça ?
Oui.
Ah ah. La VR, on l'a déjà faite celle-là.
Ah oui, c'est vrai. Un peu d'actu ?
Allez, passons à l'actu.
26 collectivités récompensées par un label territoire numérique libre 2020. Bravo à elle.
Le Parlement. Le Parlement européen vote en faveur d'un droit à la réparation. Reste à voir quelle forme celui-ci prendra. Peut-être un score de réparabilité obligatoire, comme ce sera bientôt le cas en France. iFixit s'en réjouit.
La Hanopi suggère des pistes pour contrer le piratage. Ils veulent des pistes, interdire les DRM, licence globale, la fin des mafias, des ayants tous les droits.
Hein, c'est de bonnes pistes, ça, quand même.
C'est sûr.
Ultime mise à jour pour Flash, avant son abandon par Adobe. Il n'en finit plus de disparaître, ce truc. Enfin, là, promis, c'est vraiment la dernière.
Ah, tu serais satisfait de savoir la fin de Adobe.
Ouf, hein. Ah oui, quand même.
Framasoft fait le bilan de ses nombreuses actions en 2020. Un grand merci à ceux qui ont fait tout ça. Comment font-ils pour faire autant avec si peu et trouver plus de temps pour nous faire rire ?
La Federal Trade Commission poursuit Facebook pour pratiques anticompétitives. Ah bon, Facebook, c'est un monopole ?
Bah oui, il faut croire.
Allez, une petite pause ?
Une petite pause pour nous retrouver. Il était une fois la réalité virtuelle par Maître Belle.
We'll be right back. Oui, ça pulse.
Razer 911, the Sen is dead. Mais non.
Mais non, c'est pas vrai.
Mais non.
Allez, le sujet ?
Alors, il était une fois la réalité virtuelle. La réalité virtuelle a des débuts qui ont précédé le moment où le concept a été inventé et formalisé. Dans cette histoire détaillée de la réalité virtuelle, nous examinons comment la technologie a évolué et comment les pionniers clés ont ouvert la voie de la réalité virtuelle, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, on va d'abord définir qu'est-ce que la réalité virtuelle. Avant de pouvoir considérer le calendrier de développement de la réalité virtuelle, nous pouvons considérer brièvement que cela compte comme RV, réalité virtuelle, rêver, ou devrait être considéré comme un précurseur de celui-ci. Après tout, le but de la réalité virtuelle est de tromper le cerveau de quelqu'un en lui faisant croire que quelque chose est réel, mais que ce n'est pas le cas. Par exemple, il y a le célèbre exemple d'une première projection cinématographique. Il montrait un train se dirigeant droit vers la caméra. Les personnes présentes n'ayant jamais vu le film auparavant ont réagi aux images comme s'il s'agissait en réalité d'un train, plutôt que d'une simple photo. Bien que cette histoire puisse être considérée davantage comme une légende urbaine à l'époque moderne, elle souligne le problème de la définition précise de la réalité virtuelle. Il est tout à fait possible que l'imagerie cinématographique et télévisuelle influence notre sens de la réalité, du moins jusqu'à un certain point. Pourtant, nous ne pensons pas à eux et à la réalité virtuelle comme étant une seule et même chose. Il existe aujourd'hui de nombreuses définitions de la RV qui se chevauchent tous ou plus ou moins dans des domaines clés. Lorsque nous utilisons maintenant le mot réalité virtuelle, il fait spécifiquement référence à des images et à du matériel généré par ordinateur spécialement conçu pour nous apporter ces images et ces sons d'une manière totalement immersive. De nombreuses définitions stipulent également que la réalité virtuelle doit être interactive. Cela différencierait des choses comme des films en 3D, la vidéo à 360 degrés et d'autres médias similaires. Regardez, mais ne touchez pas. Le problème avec cela, c'est qu'une grande partie de la réalité virtuelle générée par ordinateur n'est pas tout à fait interactive, mais tout le monde la considère comme de la réalité virtuelle. Bien que la vidéo 360 degrés puisse ne pas être générée par ordinateur, elle n'est fonctionnelle par différence d'une expérience de CGRV. Non interactive, pré-planifiée. Dans un contexte historique, nous devons donc élargir ce qui est considéré comme la réalité virtuelle ou réalité virtuelle adjacente. Certains des jalons abordés dans ce sujet donc également des ancêtres d'autres formes de médias comme le cinéma, les technologies sont également ramifiées dans de nombreuses directions différentes. Dans certains cas, un jalon concerne davantage la création d'une idée que l'invention d'une technologie spécifique. Première tentative de la réalité virtuelle, la peinture panoramique. Si nous concentrons plus strictement sur la portée de la réalité virtuelle comme moyen de créer l'illusion que nous sommes présents quelque part où nous ne sommes pas, alors à la première tentative de la réalité virtuelle est sûrement les peintures murales à 360 degrés ou peintures panoramiques du 19e siècle. Ces peintures étaient destinées à remplir tout le champ de vision du spectateur, lui faisant se sentir présent à un événement ou à une scène historique. En 1838, il y a eu les photos et les visionneuses stéréoscopiques. Les recherches de Charles Westerhinson ont démontré que le cerveau traite les différentes images bidimensionnelles de chaque œil en un seul objet de trois dimensions. La visualisation de deux images ou photos stéréoscopiques côte à côte au moyen d'un stéréoscope a donné à l'utilisateur une impression de profondeur et d'immersion. Le développement ultérieur du populaire stéréoscope de ViewMaster, breveté en 1939, a été utilisé pour le tourisme virtuel. Les principes de conception du stéréoscope sont aujourd'hui utilisés pour le populaire Google Cardboard et les écrans de tête RV à petit budget pour téléphone mobile. En 1929, Link Trainer, le premier simulateur de vol, Edward Link créa le Link Trainer, breveté en 1931, probablement le premier exemple de simulateur de vol commercial, entièrement électromécanique. Il est contrôlé par des moteurs liés au gouvernail et à la colonne de direction pour modifier le langage et les roulis. Un petit appareil motorisé imitait les turbulences et les perturbations. Le besoin des moyens plus sûrs de former les pilotes tels que l'armée américaine a acheté 6 de ces appareils. En 2015, c'était un peu moins de 50 000 dollars que ça coûtait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 10 000 lignes, traîneurs, boîtes bleues ont été utilisées et plus de 500 000 pilotes pour la formation initiale de l'amélioration de leurs compétences. Dans les années 30, l'histoire de la science-fiction prédit la réalité virtuelle. Une histoire de l'écrivain de science-fiction Stanley G. Brewerbone, Pygmalion Spectacles, continue l'idée d'une paire de lunettes qui permet aux porteurs de découvrir un monde fictif à travers l'holographie, l'odeur, le goût et le toucher. Avec le recul, l'expérience de Wayman décrit que ceux qui portent des lunettes ressemblent étrangement à l'expérience moderne et émergente de la réalité virtuelle, faisant de lui un véritable visionnaire du domaine. En 50, Sensorama de Martin Helling. Au milieu des années 50, le directeur de la photographie Martin Helling a développé le Sensorama, breveté en 62, une armoire de théâtre de style arcade qui simulait tous les sens, pas seulement la vue et le son, et comportait aussi des haut-parleurs stéréo, un écran 3D stéréoscopique, des ventilateurs, des générateurs d'odeur et une chaise vibrante. Le Sensorama est destiné à immerger pleinement l'individu dans le film. Il a également été créé 6 courts-métrages pour son invention, qui tous tournaient, produits et montés l'humain. Les films Sensorama intitulés Moto danseuse du ventre de Denis Bugey, Hélicoptère, Rendez-vous avec Sabrina et Je suis une bouteille de Coca-Cola. Le premier écran IRV monté sur la tête, la prochaine invention de Motorling était le masque télésphère et qui était le premier exemple d'un écran monté sur la tête. Alors le HMD qui est le Head Mounted Display. Le vidéo casque, bien que pour le support du film interactif sans aucun suivi de mouvement, le casque offre une vision 3D stéréoscopique et large avec un son stéréo. En 61, donc il a eu le premier réel vidéo casque. Les deux ingénieurs de Philcon Corporation ont développé le premier précurseur du HMD, tel que nous connaissons aujourd'hui. Le HeatSync incorporait un écran vidéo pour chaque œil et un système de suivi de mouvement magnétique qui était relié à une caméra en circuit fermé. Le HeatSync n'a pas été développé pour les applications de réalité virtuelle. Le terme n'existait pas à l'époque, mais pour permettre une visualisation immersive à distance de situations dangereuses pour les militaires. Les mouvements de la tête de déplaceraient une caméra distante, permettant à l'utilisateur de regarder naturellement autour de l'environnement. HeatSync a été la première étape de l'évolution de l'écran de réalité virtuelle, mais il manquait l'intégration de la génération d'ordinateurs et d'images. 65, l'image ultime par Evan Sutherland. Evan a décrit le concept Ultimate Display, qui pouvait simuler la réalité du point on ne pouvait pas faire la différence avec la réalité réelle. Son concept comprenait un monde virtuel vu à travers le casque qui était apparu réaliste grâce à sa 3D augmentée et aux retours tactiles. Matériel informatique pour créer le monde virtuel et le maintenir en temps réel et la capacité des utilisateurs à interagir avec des objets dans le monde virtuel de manière réaliste. Il avait dit « L'affichage ultime serait bien sûr une pièce dans laquelle l'ordinateur peut contrôler l'existence de la matière. Une chaise exposée dans une telle pièce serait assez bonne pour s'asseoir. Les menottes exposées dans une telle pièce seraient confinantes et une balle déployée dans une telle pièce serait fatale. Avec une programmation appropriée, un tel affichage serait littéralement être le pays des merveilles dans lequel Alice est entrée. » Ivan Sutherland. En 66, Sim de Vol de Furness, un ingénieur militaire nommé Thomas Furness, est crédité d'avoir lancé le développement de la technologie de simulateur du vol moderne. Parfois présenté comme le grand-père de la réalité virtuelle, son travail dans la technologie d'interface humaine continue à informer la technologie de réalité virtuelle à ce jour. 68, épée de Damoclès, Ivan Sutherland et son élève Bob Sproul ont créé le premier écran RVAR monté sur la tête Sword of Damoclès qui était connecté à un ordinateur et non à une caméra. C'est un engin effrayant qui était trop lourd pour qu'un utilisateur puisse le porter confortablement. Ce qui était suspendu au plafond, d'où son nom, l'utilisateur devra également être attaché à l'appareil. Les graphiques générés par son ordinateur étaient des pièces et des objets filaires très primitifs. En 69, réalité virtuelle, Michael Kruger, un artiste en informatique de la réalité virtuelle, a développé une série d'expériences qu'il a qualifiées de réalité artificielle, dans lesquelles il a développé des environnements générés par ordinateur qui répondaient aux personnes qui s'y trouvaient. Les projets nommés GlowFlow, MetaPlay, Psychic Space étaient des progressions dans ces recherches qui ont finalement conduit au développement de la technologie VideoPlace. Cette technologie a permis aux gens de communiquer les uns et les autres dans un environnement réactif généré par ordinateur malgré la distance de plusieurs kilomètres. En 72, on construit un simulateur de vol numérique. General Electric produit un simulateur de vol informatisé qui arbore trois écrans disposant d'une configuration à 180 degrés. Les écrans entourent le cockpit d'entraînement simulé pour donner au pilote stagiaire une sensation de véritable immersion. En 77, la carte du film du MIT, la MIT crée la carte vidéo Aspect. Ce système permet aux gens de se promener dans une expérience virtuelle d'Aspen au Colorado. C'est presque comme un ancien précurseur de Google Street View. Ils l'ont utilisé vidéo filmée à partir d'une voiture en mouvement pour créer l'impression de se déplacer dans la ville. Encore une fois, aucun HD, casque ne faisait partie de cette configuration. Le McDonald's, Douglas, le casque vital est probablement bon exemple de réalité virtuelle en dehors du laboratoire. En utilisant un head tracker, les pilotes pouvaient regarder des images primitives générées par ordinateur. En 82, Gans Harris, suivi des doigts pour la réalité virtuelle, a appelé les gants Sears, soit montés par Daniel Sardin et Thomas Stefan. Les gants sont souvent connectés à un système informatique qui utilisait des capteurs optiques pour détecter les mouvements des doigts. C'était le précurseur des gants de données qui constituerait une partie importante des débuts de la réalité virtuelle. En 86, Furness invente le super cockpit. Était le directeur d'un projet, était de l'armée de l'air connu sous le nom de super cockpit. C'était un simulateur conçu pour la formation qui présentait des graphiques et une interactivité en temps réel pour les pilotes. Fait intéressant, le supercoptic présentait une intégration entre le suivi des mouvements et le contrôle de l'avion. En 87, réalité virtuelle est née. Même après tout le développement de la réalité virtuelle, il n'y avait toujours pas de table universelle pour décrire ce domaine. Tout cela a changé en 87 lorsque Jairon Lanier, fondateur du laboratoire de programmation visuelle de DPL, a inventé, ou selon certains vulgarisé, le terme de réalité virtuelle. Le domaine de recherche avait maintenant un nom grâce à sa société de recherche DPL. Il avait développé une gamme d'équipements de réalité virtuelle, notamment le Data Glove et le casque iPhone. Ils ont été la première entreprise à vendre des lunettes de réalité virtuelle. Des gants, un développement majeur dans le domaine de l'haptique réalité virtuelle. La NASA en 89, dans la réalité virtuelle, avec l'aide d'un Crystal River Jenner, crée le Project View, une simulation de réalité virtuelle utilisée pour former des astronautes. View semble reconnaissable comme un exemple moderne de la réalité virtuelle et comprend des gants pour une simulation fine de l'interaction tactile. Fait intéressant, la technologie de ces gants conduit directement à la création du Nintendo Power Glove. En 91, la machine d'arcade du groupe Virtuality. Nous avons commencé à voir des appareils de réalité virtuelle auxquels le public avait accès, même si la possession des ménages d'une réalité virtuelle de pointe était encore loin d'être accessible. Le groupe virtuel a lancé une gamme de jeux d'arcade et de machines. Les joueurs porteraient un ensemble de lunettes de la réalité virtuelle et joueraient sur des machines de jeu avec le visuel 3D stéréoscopique immersif en temps réel. Une latence de moins de 50 millisecondes. Certaines unités ont également été mises en réseau pour une expérience de jeu multijoueur. En 91, Mars, Rover et Medina. Ces jours-ci, nous avons l'habitude de voir des images en direct de Rover martien. En 91, c'était encore un rêve futur et restait de nombreux problèmes à résoudre. Un ingénieur de la NASA nommé Antonio Medina a développé un système de réalité virtuelle qui permet de piloter un rover sur Mars, même en tenant compte du retard. Un système baptisé Téléopération simulé par ordinateur. En 92, Lonergan a présenté le concept de réalité virtuelle à un public large. Il est en partie baptisé le fondateur de Virtualité Reality, Jaron Lanier. Et ses débuts en laboratoire, Jaron a joué par Pierce Brosnan, un scientifique qui a utilisé la thérapie de réalité virtuelle sur un patient mentalement handicapé. De vrais équipements de réalité virtuelle issus des laboratoires de recherche VPL ont été utilisés dans le film et dans le réel, et le réalisateur Brett Lerner a mis s'inspirer d'entreprises comme le VPL. VPL Research a été l'une des premières entreprises à développer et vendre des produits de réalité virtuelle. 93 Sega annonce de nouvelles lunettes réalité virtuelle. Sega a annoncé le casque RV pour la console Sega Genesis en 93 au Consumer Electronics Show de la même année. Les lunettes prototypes enveloppantes avaient un suivi à la tête, un son stéréo et des écrans LCD. Dans la visière, Sega avait l'intention de lancer un produit aux environs de $200 à l'époque, soit $322 en 2015. Cependant, les difficultés de développement technique ont fait que l'appareil resterait à jamais dans la phase du prototype malgré le développement de 4G pour ce produit. Ça a été un flop pour Sega. En 95, Nintendo Virtual Boy.
Nintendo
connu à l'origine sous le nom de VR32. C'était une console de jeu 3D qui était censée être la toute première console portable capable d'afficher de véritables graphismes 3D. Il est sorti par la première fois au Japon et en Amérique du Nord au prix de $180, mais ce fut un échec commercial. Malgré la baisse des prix, les raisons apportées de cet échec étaient un manque de couleur dans les graphiques. Les jeux étaient en rouge et noir. Ça me fait penser une chanson. Il y avait un manque de support logiciel.
Oui, mais je ne chanterai pas.
Ouais, j'étais allongé à la masse. D'utiliser la console dans une position confortable. L'année suivante, ils ont arrêté sa production et sa vente. En 97, traitement de l'EPC, Landmark pour la réalité virtuelle, Georgia Tech et l'unité Emory collaborent pour utiliser la réalité virtuelle pour le traitement du SSPT chez les anciens combattants. Il s'agit en fait d'un aspect crucial du traitement de la recherche d'aujourd'hui. Une exposition contrôlée à des déclencheurs traumatiques est cruciale pour traiter les symptômes. La technologie RV a donné aux thérapeutes un contrôle inégalé sur ces patients qui voient et vivent aujourd'hui.
Oui, SSPT, on rappelle, c'est un syndrome de stress post-traumatique.
Oui, ouais, bon, oui, j'aurais dû. La Matrice, oui. En 99, la Matrix, les frères sœurs Wachowski. Le film présente des personnages qui vivent dans un monde entièrement simulé, dont beaucoup ignorent complètement qu'ils ne vivent pas dans le monde réel. Bien que certains films précèdent aient tenté de décrire la réalité virtuelle, tels que Tron en 82, The Matrix a un impact culturel majeur et a introduit le sujet de la réalité simulée dans le courant dominant. En 2007, Google nous apporte Street View, a amélioré son service de maps et ses images 360 degrés au niveau de la rue, capturées par des voitures spéciales équipées d'un équipement de caméras personnalisées, immersives, mais bien, a fait le travail en utilisant une caméra dodécadérique de leur propre conception. Aujourd'hui,
dodécaédrique.
Oui. Aujourd'hui, vous pouvez vous tenir grâce à peu près n'importe quelle partie du monde et regarder autour de vous grâce à cette technologie.
C'est magique.
2010, Street View passe à la 3D et l'Oculus est prototypé. Quelques années plus tard, Street View obtient un mode 3D, mais une nouvelle bien plus importante dans l'histoire de la réalité virtuelle est le travail effectué par un jeune homme connu sous le nom de Palmer Luckey. Il a de la chance. Il a créé un casque, une réalité virtuelle que tout le monde peut fabriquer, mais une rencontre fatidique avec la Légion de l'informatique John Carmack le met sur la voie de prendre son Oculus Rift, plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. L'Oculus Starter, Palmer Luckey lance en 2012 un Kickstarter pour financer le produit et le développement de son prototype de casque, le Rift. La campagne lève près de 2,5 millions de dollars et constitue une ligne de démarcation claire entre les échecs commerciaux de la réalité virtuelle grand public dans le passé et la révolution réalité virtuelle moderne. En 2014, Facebook achète Oculus, et Sony annonce leur projet réalité virtuelle. Le géant des médias sociaux voit le potentiel de la technologie Oculus en achetant la société et en rendant le qui incroyablement riche. C'est une année exceptionnelle avec également le lancement de Google Cardboard et Samsung Gear réalité virtuelle. La réalité virtuelle est soudainement un sujet très brûlant. C'est également l'année où Sony annonce qu'il travaillait sur un module complémentaire de la réalité virtuelle pour la populaire console PlayStation 4. Elle est beaucoup moins puissante que les ordinateurs compatibles réalité virtuelle de l'époque. Donc tout le monde est assez curieux de voir s'ils vont réussir. Bah, bon, ils ont réussi. C'est l'année où tout le monde lance en 2016 et 2007 le Holmes Breakthroughs, des produits sur la réalité virtuelle prêts pour les heures de grandes écoutes. Le Rift, le HTC Vive, ouvre la voie, mais les vannes se sont vraiment ouvertes. Vous pouvez voir les résultats de ce boom en visitant la base de données HMD. Le Half-Dome HMD est annoncé. Oculus présente un nouveau prototype en 2018, connu sous le nom de Domidome. Ce casque avancé utilise des lentilles varifocales et un champ de vision extrêmement large, à 140 degrés. 2018, la réalité virtuelle autonome augmente. La réalité virtuelle mobile, bye bye. Nous venons maintenant à la fois à l'Oculus Go et l'Oculus Quest, deux exemples de la réalité virtuelle autonome qui ne nécessite ni ordinateur ni téléphone pour fonctionner. La réalité virtuelle mobile diminue rapidement et les systèmes autonomes tels que le Go sont très abordables. En 2019, la réalité virtuelle évolue rapidement. Les systèmes de la réalité mixte et les technologies sophistiquées font désormais partie des casques VR autonomes. L'Oculus Quest reçoit une promesse de capacité de connexion et les projets de la réalité virtuelle basés sur les smartphones commencent à s'arrêter. Le coût des casques de la réalité virtuelle a considérablement baissé et le matériel informatique capable de le faire fonctionner, ces casques est pratiquement courant. De nombreux casques avancés se profilent à l'horizon, la technologie varifocale, les champs de vision extrêmement larges, la numérisation des mains et le suivi oculaire ne sont que quelques-uns des développements clés. Selon certaines rumeurs, des grandes entreprises telles que Apple travaillent sur des projets en réalité virtuelle mixte et à ce stade, il semble bien que la réalité virtuelle et la réalité mixte soient probablement inséparables à l'avenir.
Eh ben, ça c'est une histoire.
Eh oui, peut-être en 2021 des Apple Glass.
Ah, je trouve qu'il a manqué un petit peu tout le côté médical, oui. La réalité virtuelle, parce que tu en as parlé pour le film Le Cobaye. Enfin, en France, il s'appelait Le Cobaye. Ouais. C'est que parce que la réalité virtuelle de l'époque aussi, si ça a été un flop, c'était moche. C'était lent. C'était même pas une question de nom, hein, parce que ils appelaient ça. Alors, le premier moteur grand public, c'était le Freescape. Landscape, Freescape, parce qu'on pouvait se déplacer dans un monde. Et il y a eu des programmes commerciaux pour les particuliers, les construction kits, 3D construction kits, donc il y a eu pas mal de choses. Mais c'était pas beau, parce que les ordinateurs n'avaient pas la puissance. Par contre, dans le milieu médical, on arrivait à traiter le vertige. On aurait pu le faire peut-être avec deux photos, mais avec ces casques-là, même si c'était moche, on arrivait à transcrire la sensation de vertige dans le casque. Et donc,
il y a un projet de réalité virtuelle et médicale, ce sera un projet.
Voilà. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ça décolle parce que, je veux dire, on a des choses qui sont belles, un minimum réaliste. C'est... Oui,
même les sensations au point de vue touché, quoi que ce soit, pour les aveugles, etc., ce sera dans un prochain projet.
Ouais, alors moi j'ai testé chez un copain et le retour, le suivi de la tête et les sensations, c'est assez impressionnant. Ça peut foutre la gerbe rapidement.
Ben moi j'ai vu un match de foot, bien que j'aime pas le foot, mais c'est impressionnant. C'est on voit les spectateurs, le public, et c'était une très bonne interactivité.
Voilà. Ouais, et puis le jeu vidéo, ça doit être sympa aussi, les jeux de rallye, d'avion, ça doit être très très chouette. Hein.
Bah, faut pas être cardiaque, alors.
Ouais, merci, Maître Bell.
Merci.
Merci, Maître Bell. On passe à l'agenda.
Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
Ah, jingle.
Double jingle.
L'agenda. Ah, c'était le mot. Qu'est-ce qu'on a ?
OpenStreetMap, rencontre mensuelle virtuelle, discussion entre contributeurs lyonnais de OpenStreetMap et acteurs intéressés. Ce sera en ligne le 15 décembre 2020 de 18h30 à 20h.
Coding Dojo, contribution à un logiciel libre. ADD organise un nouveau Coding Dojo. Dans cette édition récurrente, nous travaillerons sur des logiciels libres en suivant ensemble les étapes d'une contribution positive. Le fork, les interactions avec la communauté du projet, la rédaction, soit pour décrire des problèmes ou des évolutions, soit pour aider les utilisateurs, l'implémentation et enfin la contribution sous forme de pull request. Nous ferons du mob programming, nous utiliserons IntelliJ, oui c'est ça, et son module qui permet de travailler à distance, Code With Me. C'est en ligne sur inscription, mardi 15 décembre de 19h à 21h.
Beau programme, hein? Du lien et des liens ?
Eh bien oui, c'est la fin de l'année et de nombreuses associations ont besoin de dons pour continuer à fonctionner, y compris le numérique Linux, et faire à compiler une liste d'associations à soutenir, si vous le pouvez.
La chaîne vidéo d'un ingénieur français qui veut recréer une Ford GT40.
Pourtant, la ville t'appartient, un film pour enrayer la machine technopolicière, avec entre autres Félix Tréguet de la Quadrature du Net.
Windows XP in React, une simulation de l'interface de Windows XP dans votre navigateur.
La chaîne vidéo Explaining Computer qui explique très bien malgré un fort accent britannique.
Une collection impressionnante de photos et des régions naturelles métropolitaines. Avec plein de mots-clés pour croiser plein de recherches.
Sur Cassini Grand Paris, l'atelier parisien d'urbanisme vous convie à un voyage cartographique pour découvrir la représentation de Paris depuis le XVIIIe siècle.
Et enfin, CERN et le sens de la beauté, un film qui mêle science et beauté.
Waouh ! Et vous retrouvez les liens sur AAA.fr. On fera la boule de cristal ? Astrologique, libriste.
Je marche seul. Sans Debian, sans Redan. Je marche seul. En oubliant les hurdes.
Technophile, le 4-6, c'est la crème des câbles.
Maker est là, le plat, le paix est là. Pourtant, je ne sens rien.
Mais moi, si.
DevOps. Alors, c'est des requêtes SQL qui rentrent dans un bar. Comme elles sont nombreuses, elles demandent au patron, on peut joindre les deux tables.
Je la ressens lundi, celle-là.
Elle n'est pas de moi. Et quand c'est pas de moi, je mets le lien. Donc, vous pouvez retrouver qui c'est qui a fait ça.
Génial. Électricien. Oula, t'as fumé la MOSFET ?
Télétravailleur, j'ai fait du jiu-jitsu dans ma jeunesse, mais là, il y a la config karaté.
Ah. Eh bien, amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission qui était un petit peu longue, néanmoins, voilà, ça vous permettra de connaître un peu plus l'histoire de la réalité virtuelle. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être à moitié dans le studio, on ne sait pas encore, mais en tout cas,
c'est
on vous dit
sûr,
à très bientôt.
Bye
bye.
À bientôt.
Salut.